Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Fideo Natis, un DIWA relativement fraîchement installé ici même, qui lance d'abord une maison d'édition et ensuite qui sortira son premier livre, si je ne m'abuse, qui est Terrestre, extraterrestre, notre histoire avec le ciel. Un bouquin qui réécrit sans couper rire l'intégralité de l'histoire humaine avec d'autres critères, d'autres façons de voir les choses, un autre paradigme. J'ai entendu un certain nombre de ces histoires qu'on peut trouver de ci, de là sur Internet. Hein, et donc, c'est par ouverture d'esprit que je donne la parole à Fideo Natis aujourd'hui qui va nous raconter la vraie histoire de l'humanité, voire la vraie histoire des galaxies, du monde. Fideo, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, j'ai voulu un petit peu planter un décor. Je ne vais pas tarder à te céder la parole. Et il y a énormément de choses qui sont dans ton livre. Il y a tellement de choses que c'est impossible de les passer toutes en revue. Est-ce que tu serais capable de nous faire une petite synthèse convaincante pour nous expliquer quelle est la vraie cosmogonie du monde et pas celle qu'on nous a appris ni à l'école, ni à l'église, ni dans les médias?
Ben, tu y vas fort là pour d'emblée.
Ben, j'y vais fort, non, mais tu as vu ton programme quand même.
Oui. Ben, je préférerais quand même introduire le sujet en expliquant déjà ma démarche, je crois que c'est important, et puis pour expliquer ensuite comment j'arrive à ça, quoi, en fait. Voilà.
Tu es tellement libre.
Alors, ma démarche, quelle est ma démarche? Ben, c'est vrai que je m'intéresse depuis de nombreuses années à des sujets que l'on peut, en fait, qu'on appelle exotiques, mais qui recouvrent des aspects très divers qui comprennent bon, évidemment tout ce qui est énigme de l'histoire de l'humanité, hein, et des civilisations anciennes, qui comprend tout l'aspect en fait de la spiritualité, des religions, des traditions mystiques et ésotériques, voilà, parce que en fait on va se rendre compte que tout ça c'est lié, et puis tout ce qui touche en fait à effectivement une approche nouvelle en fait de la compréhension de notre propre histoire humaine à un niveau évidemment cosmique. Bon, j'ai appelé mes éditions les éditions gaïactiques pour introduire cette notion de dimension gaïactique. Donc pour moi la dimension gaïactique, donc c'est en référence à Gaïa bien sûr, Gaïa la planète sacrée. Donc c'est pas loin de galactique, donc c'est la dimension galactique cosmique de notre planète sacrée Gaïa. Mais il faut comprendre ce que l'on met dans cette dimension, puisque cette dimension, en fait, on pourrait dire, ça pourrait être uniquement s'intéresser à l'aspect, on va dire, physique, matériel de la galaxie, mais pas du tout. Enfin, et c'est là que, pour moi, mon premier critère, ma première définition, c'est de dire, nous habitons, nous vivons sur une planète et dans un univers qui a une réalité multidimensionnelle. Voilà. Et quand on a dit ça, on introduit déjà une autre perception de notre propre nature humaine et puis de notre environnement cosmique, dans lequel nous incluons eh bien, les autres dimensions, c'est-à-dire ceux qui habitent dans d'autres dimensions que la troisième. Donc c'est un petit peu comme ça que je définis ma dimension gaïactique. Donc je vais m'intéresser en fait à la réalité multidimensionnelle de l'univers. Et donc effectivement là, on peut mettre énormément de choses. Voilà. Et dans cette multidimensionnalité, on va retrouver donc des dimensions dans lesquelles on a l'habitude de parler de la quatrième dimension, de la cinquième dimension ou de l'au-delà, en disant oui, les esprits vivent dans un certain au-delà.
Ou alors l'astral, l'éther.
Voilà, exactement, l'astral, l'éther. Donc que nos défunts, quand ils meurent, ben, où est-ce qu'ils vont? Voilà, ils vont dans un autre, ils changent de dimension, quoi, voilà. Et effectivement dans ce monde astral, voilà. Donc ça fait donc ça inclut tout ça. Alors on a les esprits. Alors après on peut aborder l'aspect sous l'aspect religieux. Bah, on va trouver les anges par exemple, hein. Et donc c'est là que je m'intéresse à tous ces êtres angéliques qui sont décrits dans nos textes sacrés, la Bible et d'autres, qui est une certaine perception de ces êtres, en fait. Et puis, on a ce qu'on appelle les dieux. Donc, les dieux, on sait que les dieux, c'est plutôt nos anciens, les civilisations, les cultures anciennes qui parlaient des dieux, et parce que, en fait, ils vivaient avec les dieux. En fait, c'est un petit peu différent de nous. Nous sommes dans dans un monde qui est devenu très matérialiste où on ne reconnaît plus spécialement la réalité de ces dieux. Alors qui sont les dieux? Comment on les définit? Donc là je dis, bah oui, les dieux ce ne sont jamais que, par exemple, je cite les dieux de
l'Olympe,
les dieux grecs, mais j'irais aux dieux de Sumer ou aux dieux égyptiens, voilà, en disant, eh bien oui, c'est... Enfin, ces gens-là, puisque ce sont des gens aussi, comme nous, qui ont des entités, qui ont aussi un corps comme nous, enfin, pas forcément exactement comme nous, mais enfin, voilà. Et qui sont là depuis très longtemps dans notre histoire humaine et planétaire, quoi, que l'on retrouve. Et donc, maintenant, la seule différence, c'est qu'on les appelle les extraterrestres, quoi, voilà. Donc, voilà. C'est pour en fait découvrir cette dimension dans laquelle tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les esprits, les anges, les dieux, tout ça, les extraterrestres, voilà, ils font partie de ce monde multidimensionnel. Voilà.
Il y en aurait combien de dimensions?
Alors, c'est très précis. J'ai découvert une source écrite, c'était un bouquin qui a été publié aux États-Unis. Donc, il faut savoir, je précise que ma démarche, c'est de traduire quand même des bouquins des auteurs américains. Et lors du voyage que j'ai fait au Canada il y a 3 ans, donc j'ai découvert justement ce genre d'écrits d'auteurs, dont celui que je traduis. Donc je vais peut-être en parler un petit peu après, puisque...
Robert Sibelrod.
Robert Sibelrod, voilà, c'est ça. Donc il y a lui, et puis il y a une autre source que j'ai découvert en même temps que son bouquin, qui est absolument extraordinaire, enfin qui m'a totalement scotché par rapport à tout ce que j'avais pu lire dans ce domaine-là, quoi, je veux dire. Et que j'ai utilisé, que j'ai potassé, bon, c'est quand même... un bouquin en 2 volumes qui fait 750 pages, quoi, qui s'appelle Voyagers, et qui est en 2 volumes, qui est écrit par une Américaine qui s'appelle Ashayana Dean. Et en fait, la particularité de ces écrits, ou je dirais de cette source, c'est que ce ne sont pas des sources humaines. Voilà. Alors là, on rentre dans une autre dimension. Alors après, évidemment, on peut dire, oui, qu'est-ce qui nous dit que ce sont des sources?
Oui, comment vérifier ces sources-là, hein? C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, ouais, qui a écrit ça, non?
Ouais.
Non.
Oui, on pourrait dire ça, quoi. Eh bien, on va dire que mon œil un peu expert dans le domaine s'est rendu compte qu'on avait là une dimension d'expression... Enfin, dans ce bouquin, il y a une telle densité, une telle précision et une dimension, je veux dire, à laquelle on n'est pas du tout habitué, c'est-à-dire la manière de percevoir les choses, la manière dont il nomme aussi les choses et il raconte l'histoire de notre humanité, ce qui s'est passé sur cette planète depuis des milliers d'années, quoi. Pour moi, ça n'avait absolument rien à voir avec tout ce que j'ai pu lire. Parce qu'en général, quand on parle de sources non humaines, extraterrestres, en général, ce sont du channeling, c'est des canalisations. C'est-à-dire, il y a le...
Une entité de l'astral qui possède la personne.
Une entité intel, X, Y, qui dit, ouais, moi, je m'appelle comme ça, ouais, je viens de... Je sais pas, j'habite sur telle planète et tout ça, et je vais vous parler de... Voilà, de ci, cela. Bon. Alors, ça, il y en a beaucoup. Hein. Mon auteur, Robert Sibelrod, utilise quand même certaines de ces sources, c'est-à-dire des canalisations, donc des gens qui vont te parler des Syriens, des Arcturiens, tout ça. Eh bien, ce sont des personnes... Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça se passe toujours aux États-Unis. Je veux dire, les contactés, ce sont des personnes qui sont contactées d'une manière par télépathie, je dirais. C'est, voilà... Ils entendent quelque chose dans leur tête, quoi, voilà. Et ou alors après, ça a même pris des formes bizarres, puisque enfin, sous forme d'écriture automatique, par exemple. Hein, donc, il commence à écrire. Bon, ça, c'est un phénomène assez connu. Alors, il y a donc ce, on va dire, ce type de source qui se caractérise par la canalisation. Mais là, on n'a absolument aucune certitude de d'où vient la source, parce que à la limite, n'importe quelle entité peut dire « je m'appelle X, Y, et puis voilà, je suis un pléiadien, et puis j'ai envie de, j'ai des choses à te dire, quoi, à vous dire ». Donc, c'est une entité qui peut se faire usurper très facilement. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'en fait la personne qui reçoit ça, tu vois, la personne qui est canal.
Oui, on peut même se poser la question des motivations des entités. Quel intérêt ont-elles de nous transmettre des informations?
Oui.
Sont-elles bienveillantes ou malveillantes?
Ouais, voilà.
Sont-elles dans l'involution ou l'évolution?
Ah oui. Alors, on se rend compte qu'il y a toute une littérature qui est apparue, je ne sais pas, il y a une vingtaine, même trentaine d'années, basée sur ces canalisations. Et en fait, que l'on peut mettre dans la catégorie de la littérature New Age, Nouvel Âge, quoi. Avec un type de discours qui est toujours le même, qui pour moi est assez superficiel. Enfin, c'est toujours assez beau, assez éloquent, en disant ouais, nous sommes vos frères de l'espace, et voilà, nous sommes là pour vous enseigner des choses. C'est souvent présenté de cette manière-là, avec tout un enseignement et tout ça. Et toutes ces canalisations se ressemblent, en fait, c'est toujours dans ce même. Registre. Et pour moi, je dis que souvent, ça sonne faux, toutes ces choses-là. Ça sonne assez faux. Voilà.
Alors, quelles sont les vraies sources?
Alors, donc, je parlais de cette source-là, de cette autre source, l'écrit qui s'appelle Voyager, donc qui est ce bouquin. Que... Donc là, on a affaire à un tout autre type de contact et de dimension, j'ai envie de dire. Alors là, c'est pareil, si je te raconte un petit peu qui est cette Achayadine, ce qu'elle fait, comment elle a pris ce contact avec ses entités, enfin ses extraterrestres, je veux dire, tu vas trouver ça certainement assez allumé comme... Alors, qu'est-ce qui a fait, en fait, que j'ai donné du crédit à cela, quoi, en fait, plus que pour les autres choses dont je viens de parler, c'est-à-dire toutes ces canalisations? Ben, c'est le contenu, c'est ce qu'il y a dans le bouquin, en fait. Voilà. C'est ça qui m'intéresse.
Je pense qu'on ne va pas trop s'étendre sur les sources. Parce que si on commençait à douter, c'est même pas la peine de continuer cette interview.
Exactement.
Donc, je te dis, par ouverture d'esprit et pour te donner une tribune aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours l'histoire officielle qu'on raconte. Donc, vas-y, dis-nous tout. Pourquoi d'abord, là, je vois petite guide, hein, parce que tu as une table des matières qui est hyper chargée. C'est pour ça qu'à la limite, il faudrait qu'on se revoie 15 fois et demi si on avait que ça à faire. Mais par exemple, tu parles de certains types d'extraterrestres, des Anunnaki.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que l'histoire réelle du Jardin d'Éden? On parle des reptiliens, ça, c'est des choses qu'on voit même dans la science-fiction. Hein. Enfin, bref, donc vas-y, dis-nous notre vraie origine. D'où vient-on vraiment? Qui sommes-nous? Où allons-nous?
Bien sûr, c'est la grande question, c'est le grand débat. Alors, je pourrais peut-être déjà présenter les nouvelles perspectives qui se présentent à nous dans ce domaine-là, qui ont été apportés par certains auteurs qui disent effectivement que nos origines seraient une création humaine par une race extraterrestre qui, en l'occurrence, se trouvait être les Anunnaki. Et donc là, on retrouve quoi? Alors moi, j'ai fait effectivement une enquête sur ces Anunnaki. Bon, les Anunnaki, le premier auteur qui en a parlé, c'est Zecharia Sitchin, un auteur américain qui publie depuis les années 70, qui s'est fait connaître pour sa théorie sur la 12e planète, donc que ces fameux Anunnaki viendraient de la planète Nibiru, voilà, et que ce sont eux les dieux de Sumer. Voilà, donc, il a fait toute une étude à partir des textes anciens, donc en l'occurrence des tablettes cunéiformes qu'on a retrouvées en Irak, enfin, en Proche-Orient, depuis à peu près un siècle, enfin, depuis le 19e siècle. Et il a revisité ces écritures qui avaient été plus ou moins bien lues, interprétées, quoi. Et donc, il arrive à certaines conclusions. Bon, j'ai, en même temps, j'apporte en fait un regard un peu critique sur cet auteur, parce qu'il dit évidemment des choses qui sont vraies, mais il a beaucoup extrapolé sur son sujet qu'il a développé. Il prend des références, il se réfère aussi pas mal à la Bible pour étayer sa théorie, puisqu'en fait c'est une théorie, quoi, je veux dire. Donc il a publié pas mal de bouquins là-dessus qui sont assez en fait discutables quant à la réalité historique de l'histoire de Sumer telle qu'il la présente. Et donc moi j'ai un petit peu réanalysé ce contenu pour me rendre compte qu'effectivement il y avait beaucoup de choses qui sont en fait des extrapolations ou des inventions de cet auteur. Et après quoi, j'aimerais parler d'un autre auteur qui lui, alors à l'originalité d'être français, ce qui est rare dans ce domaine-là, qui s'appelle Anton Parks, et qui après Zessaria Chitchin est venu un petit peu révolutionner notre perception justement de ces Anunnaki, de ces dieux de Sumer. Alors Anton Parks a une histoire aussi assez extraordinaire. C'est un, pendant sa jeunesse, quand il est, je sais pas, il avait 7-8 ans, il a reçu des flashs dans sa tête, avec des images, avec des sonorités, avec une certaine langue. Et puis, il était très... il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Enfin, ça l'a beaucoup perturbé, quoi. Et il a eu ces flashs pendant plusieurs années, enfin, jusqu'à son adolescence, quoi, je veux dire. Et il n'en a pas fait grand-chose. Il a voulu écarter ça, puis finalement, il s'est dit, mais il y a quelque chose à faire pour moi avec tout ça. Il s'est rendu compte que le langage qui était parlé, enfin, ce qu'il recevait comme flash, c'était du sumérien. Alors ça, c'était assez extraordinaire. Comme si c'était un ancien sumérien qui lui parlait, quoi. Mais en fait, ce n'est pas quelqu'un qui lui parle, ce sont des flashs, c'est-à-dire qu'il reçoit un certain type de connaissances qui sont certainement envoyées. Alors, il explique aussi le support. Donc il a écrit donc ces bouquins qui s'appellent « Les chroniques du Girkou » avec 3 tomes. Peut-être que ça te dit quelque chose, c'est quand même assez connu maintenant. Et le Girkou, c'est un cristal mémoriel qui contient la mémoire de tout ce qui a été vécu par ces gens-là. Et donc, il n'a fait que recontacter en fait cette mémoire. Voilà. Voilà comment il nous présente les choses. Et donc, il a écrit ses bouquins, donc les chroniques du Girkou, où il raconte l'histoire de ces Anunnaki, qui sont des Anunnas, qui deviennent Anunnaki parce que qui c'est la Terre, donc ils sont devenus les dieux de la Terre, mais qui sont à la base donc une race reptilienne, qui font partie d'un ensemble de races reptiliennes, qui sont les Amasutum, et les Ginabules plus exactement. Voilà. Et Parks va vraiment dans la compréhension même de la langue sumérienne ou proto-sumérienne, et il arrive à connaître un petit peu enfin, toute cette écriture, toute cette langue, d'une manière assez extraordinaire, qui lui permet ensuite de prendre n'importe quel mot et de dire, ah ben voilà, ça vient du proto-sumérien, voilà, ça veut dire ceci, cela. Donc, de ce côté-là, on peut dire qu'il va très loin, et il est assez bluffant pour aller, évidemment, ça n'a rien à voir avec les sumérologues qui ont pu étudier ça avec une démarche conventionnelle, j'ai envie de dire. Donc, il a écrit ces 3 ouvrages qui décrivent toute l'histoire de ces Anunnas avant qu'ils n'arrivent sur Terre. Lorsqu'ils arrivent sur Terre, qu'est-ce qu'ils font sur Terre? Et bon, il nous décrit effectivement ce qui s'est passé. À l'époque, quand ils arrivent, il faut savoir qu'il y a différentes races reptiliennes qui sont sur Terre, enfin qui utilisent la Terre déjà. Il leur donne des noms différents que nous on connaît sous d'autres formes, les dracons par exemple, voilà. Enfin qui sont les dragons, enfin, tu vois, il y a toujours Pourquoi reptilien? Parce que il y a toujours cette cette appartenance, voilà, cette nature du dragon qu'on retrouve dans nos mythologies. Donc c'est quand même bien là, quoi. Voilà. Donc ils sont sur Terre et les Anunnas arrivent. On sait qu'ils sont déjà en guerre au niveau cosmique, au niveau de la galaxie, ils sont déjà en guerre. Alors moi j'ai un petit peu fouillé sur ça, quoi, sur cet aspect-là. On retrouve ces histoires de avec qui ils étaient en guerre dans des textes qui ne sont pas sumériens mais babyloniens, dans l'Enuma Elish, qui est en fait un texte fondateur qu'ont utilisé les rédacteurs de la Bible, notamment de la Genèse, pour raconter leur histoire au commencement, était le Verbe, etc. Et puis la création de la Terre et tout ça. Et ça vient de ce texte, c'est assez marrant, qui parle déjà de cette race extraterrestre qui est en guerre avec d'autres factions extraterrestres dans notre galaxie. Donc, ils arrivent sur Terre et là, ils vont justement s'installer donc sur le pays de Sumer. Et on a des précisions importantes puisque Parks, après avoir écrit ses chroniques du Jirku à partir de son propre expérience de connexion, de flash qu'il a reçu et tout ça, il est allé se confronter aux textes, il a recherché les textes cunéiformes qui parlaient de cette histoire-là. Et il a retraduit ses tablettes, donc il a sorti ce bouquin qui s'appelle Eden en 2011. Donc il est allé rechercher ces tablettes sumériennes et il les a retraduites parce qu'elles avaient été déjà traduites, mais assez mal traduites et mal interprétées, on va dire, quoi. Et donc là, dans ce bouquin-là, il apporte la version, j'ai envie de dire, historique qui est gravée sur les tablettes d'argile de ces Anunnas, enfin de ces mêmes dieux de Sumer, quoi. Et donc, on peut comparer un petit peu ce que lui raconte dans ses trois premiers bouquins et puis ensuite la version qu'il a pu trouver de cette histoire des Anunnaki arrivant sur Terre, créant cette colonie sur la montagne Karsag, qui est une montagne dans le Kurdistan, qui est juste au-dessus de la plaine de Sumer, enfin de Tigre et de l'Euphrate. Donc on retrouve tous ces éléments-là, et c'est absolument captivant, quoi, je veux dire. Et dans les textes, on retrouve la vraie histoire de ces Anunnas qui arrivent sur Terre eh bien, avec des vaisseaux spatiaux, qui sont nommés, sont les Jijir An, qui sont nommés dans les textes qui sont écrits. Jijir, c'est le char, et An, c'est le ciel. Donc, c'est les chars du ciel, quoi. Donc, c'est quand même, ça a été consigné dans ces tablettes, quoi.
Alors, fais-nous un petit résumé. Donc, ces Anunnaki, ils deviennent Anunnaki quand ils arrivent sur Terre.
Oui.
Ils sont en guerre, ils arrivent. Quelle est leur stratégie? Et tu m'as dit peut-être tout à l'heure qu'ils avaient contribué à créer l'être humain. Alors, ils ont fait de l'ingénierie génétique?
Ils ont fait l'ingénierie génétique, effectivement. Ce sont de très bons généticiens qui ont l'habitude, c'est un petit peu une tradition chez eux, de fabriquer des races nouvelles, des hybrides. Et donc, ils ont une très grande connaissance dans ce domaine-là.
Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on y réfléchit, Sumer, c'était il y a 7-8 000 ans avant Jésus-Christ, peut-être.
Oui.
Donc, il y a à peu près...
Non, c'est plus vieux que ça. Oui, c'est plus vieux que ça. Alors, est-ce que ce sont effectivement ces Anunnaki qui auraient créé l'espèce humaine, dite Homo sapiens, là, dans leur jardin d'Éden? Donc, j'ai étudié cette question, et donc je consacre d'ailleurs un chapitre entier du bouquin à ça, pour dire que non, de toute façon, non, ce ne sont pas eux qui nous ont créés en direct, j'ai envie de dire, mais ils ont créé effectivement une race humaine dérivée dans le but de l'utiliser à leur service. C'est pour ça qu'il y a cette notion de race esclave, que les premiers humains étaient les esclaves de ces Anunnaki. Ça, c'est ce qui est dit par différents auteurs, notamment par Sitchin et par Parks. Voilà. Et moi, je m'élève contre ça en disant que non, ce n'est pas la réalité des choses, parce que nous, les êtres humains, nous existions avant et que nous avons une toute autre histoire que cette histoire, on va dire, qui est pitoyable d'avoir été créé par une race extraterrestre pour leur servir d'esclave, quoi, je veux dire. Donc, on a quand même une histoire un peu plus glorieuse, j'ai envie de dire, un peu plus cosmique. Et il faut préciser que dans ces textes qui s'appellent les textes de Karsag, donc les tablettes en question qui ont été traduites par Parks, il est bien dit que lorsque ces Anunnaki arrivent sur Terre, il y a déjà des humains sur la Terre. Ils voient, en fait, là, sur Sumer, ils rencontrent des indigènes qui ont une couleur de peau noire, tu vois, et qui vont finir par vouloir rentrer dans leur colonie. Et tout ça, c'est raconté en détail. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé entre ces premiers humains, qui sont les indigènes, en fait, ceux qui vivent là à l'époque, et puis les Anunnaki, cette race extraterrestre qui débarque sur Terre pour s'y installer, pour créer une colonie, et ensuite pour effectivement aboutir à la création de cette civilisation sumérienne.
Alors tu as dit que c'était plus ancien que 7-8 000 ans, alors c'est situable ?
C'est situable, oui. Disons que les autres auteurs, quand ils parlent de cette création de cette race humaine par les Anunnaki, ils remontent à peu près à l'époque où nos scientifiques situent l'apparition de l'Homo sapiens, à peu près 300 000 ans. Donc ils disent que ça serait à cette époque-là qu'ils auraient créé cette espèce humaine.
Oui, mais alors, est-ce que c'est compatible avec l'histoire, la datation carbone 14 de Sumer qui, comme je te le disais tout à l'heure, ne remonte pas à 300 000 ans ?
Non, bien sûr. Non, mais attends, il faut dire une chose, c'est que nous avons une vision là, officielle de l'histoire de Sumer qui, en gros, oui, remonte à 6 000 ans. Quoi, je veux dire. C'est rien du tout par rapport à la réalité de cette histoire de Sumer, puisque dans les textes, on parle des temps antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge, et que donc il y avait les dieux d'avant le déluge, et même quand on voit les lignées de rois qui sont désignées dans ces textes-là, hein, les rois de Sumer, eh bien on parle des lignées antédiluviennes qui étaient là bien avant. Quoi, voilà. Donc pour situer comme le déluge, moi j'ai une date très précise, mais il y a beaucoup d'auteurs et de chercheurs qui s'accordent donc à placer ce déluge vers 9500 avant notre ère. Voilà. Alors j'ai continué cette enquête, je viens de parler du travail d'autres auteurs qui ont présenté cette vision des choses, qui pour moi correspond à la vision de ces reptiliens-là, mais ce n'est pas forcément la vision de tout le monde, quoi, je veux dire. Donc j'ai continué mon enquête à partir de mes sources et là j'ai pu effectivement remonter un petit peu mon enquête pour aller chercher donc effectivement nos véritables racines, nos origines, quoi. Et là on rentre dans un processus où on a les chrétiens appellent ça des hiérarchies spirituelles, ce sont donc d'autres races extraterrestres que les Anunnaki, qui rentre dans un processus créationniste, on va dire, au niveau cosmique, où ils sont déjà dans des dimensions supérieures, on appelle ça des univers harmoniques. Donc nous sommes dans l'univers harmonique 1 avec nos trois dimensions. Après, tu as un deuxième univers harmonique, le 2, avec les dimensions 4, 5, 6, etc. Et on peut remonter jusque 12 et même 15, puisqu'il y aurait 15 dimensions dans notre univers, sous la forme de sa matrice, voilà, puisqu'on parle aussi de matrice. Voilà. Et donc, ces entités qui sont des êtres donc, qui habitent à un niveau dimensionnel bien plus élevé que nous, donc au niveau fréquentiel, puisque c'est une histoire de fréquence vibratoire, en fait, tout ça, hein. Eh bien, ces races extraterrestres sont à l'origine de la création d'autres races à des dimensions qui leur sont inférieures dans le deuxième univers harmonique, voire dans le premier, quoi. Et on assiste comme ça à tout un processus, alors qui est très bien expliqué dans ce bouquin qui est ma source, et dans lequel je retrouve ce qui est déjà expliqué par les grands ésotéristes comme Blavatsky ou Steiner, qui nous parlent de la création du cosmos et de la race humaine, en expliquant le processus. Eh bien, j'ai retrouvé ça, en fait, je veux dire, j'ai retrouvé des échos de ça dans ce que nous connaissons déjà sur cette approche-là. Où effectivement, on décolle un petit peu de nos Anunnaki qui créent cette espèce humaine il y a 300 000 ans. Je veux dire, on est vraiment dans une autre dimension. Voilà. c'est assez compliqué. Enfin, je veux dire, je ne vais pas non plus encore réexpliquer toute l'histoire, mais en gros, la démarche est la suivante. Ces hiérarchies spirituelles créatrices qu'on appelle les fondateurs, parce que ce sont eux qui créent, quoi, je veux dire. Ça s'inscrit sur, on va dire, plusieurs millions d'années, évidemment, cette histoire-là. Et il parle d'ensemencer la terre avec cet être humain. Notre origine humaine, en fait, viendrait d'une autre planète qui s'appelle Tara, qui existe ou qui existait dans le deuxième univers harmonique, et planète qui a rencontré de grands aléas puisqu'elle a explosé avec les races qui y habitaient. Et donc, c'est là qu'on aurait l'origine de la race humaine qui s'appelle, enfin, d'après ces sources-là, les Turanosiums. Donc, les Turanosiums seraient nos plus anciens ancêtres humains cosmiques. Et on assiste à trois ensemencements, c'est-à-dire que sur Terre, il y a un processus d'ensemencement où il y a, ils appellent ça des races cloîtrées, ce sont en fait des races éthériques, ce ne sont pas évidemment des gens comme nous qui sont de notre niveau, ils sont d'un niveau dimensionnel supérieur, et un processus comme ça qui aboutit à la création de cinq races racines, des races racines physiques cette fois-ci, puisque on part de l'éthérique pour aller vers le physique. Et ces cinq races racines, eh bien, c'est vrai que les ésotéristes en parlent, elles correspondent aux cinq couleurs de peau, en fait, hein, les bruns, les noirs, les rouges, les jaunes et les blancs. Voilà. Et donc, il y a eu un processus comme ça de création depuis à peu près 2 millions d'années. Mais il y a eu des interventions d'autres entités spirituelles, enfin extraterrestres, qui eux ont des plans assez différents. Et c'est là que je pourrais parler de ces anges déchus, puisque ce sont eux qui sont les fauteurs de troubles dans cette histoire-là, et qui vont empêcher en fait le plan divin de se réaliser pour nous, qui est donc cet ensemencement qui se produit sur Terre. Eh bien, ils vont intervenir parce que eux, ils ont d'autres desseins pour nous, et ils ont en fait un dessein qui est de contrôler la planète Terre et de contrôler le niveau physique, quoi. Et ce qui fait que on est un petit peu à l'opposé d'eux. C'est-à-dire que nos plus grands ennemis, ce sont ces fameux anges déchus et ce sont en l'occurrence ces Anunnaki. Voilà.
Ce sont eux dont on cite dans la Bible comme étant Lucifer ou Satan,
oui,
ou Belzébuth.
Tout à fait, Belzébuth ou Bélial, voilà. Tout à fait. Et donc, avec ces sources-là extraterrestres que j'ai utilisées, j'ai retrouvé une histoire, mais très très précise, de ces anges déchus, avec leur nom, d'où ils viennent, de telle galaxie ou de tel univers harmonique, etc. Et toute leur histoire, ce qui les caractérise au niveau génétique, parce que là-dedans, il y a l'histoire de la génétique est très très importante. Et il y a un codage génétique de toutes les races qui existent dans la galaxie, quoi, avec un certain nombre de brins ADN. Nous, la base humaine, notre plein potentiel en fait de réalisation génétique, il a 12 brins d'ADN. Ça n'a pas à voir avec la notion d'ADN qu'ont les scientifiques à l'heure actuelle. On a découvert notre hélice d'ADN, tu vois, là, dans les années 50, quoi, je veux dire. Et on ne comprend pas encore tout de ce potentiel génétique basé sur les ADN, à tel point que les scientifiques nomment une partie de ces ADN qui ne comprennent pas l'ADN poubelle, parce que ça ne servira à rien. En fait, ce n'est pas le cas, ça sert à quelque chose, sauf que c'est à un état latent et que ça a besoin d'être activé. Voilà. C'est ça qui correspond en fait aux différents brins d'ADN. Alors, ma source explique que les races humaines la première étant la race lémurienne, ils ont commencé à assembler les brins d'ADN 2 et 3, la suivante 3 et 4, etc., 4 et 5. Il y a tout un processus évolutif qui est directement lié à la génétique de l'ADN. Et qui caractérise notre nature christique. Alors, j'introduis encore un grand mot là. La dimension christique, c'est la 12e dimension. Notre potentiel, j'ai envie de dire cosmique, eh bien, il appartient à cette 12e dimension. Et donc, nous avons donc nos 12 brins d'ADN. Et notre réalisation cosmique, eh bien, c'est de réaliser ces 12 brins qui sont en fait à l'origine le potentiel même qu'avaient les premiers êtres humains que j'ai cités tout à l'heure, les Turanosiens, qui avaient à l'origine 12 brins. Mais sur Terre, il y a eu une recomposition, on va dire, de cette génétique.
C'est volontairement qu'on nous a supprimé les 12 brins ou bien ?
C'est pas une histoire de les avoir supprimés, c'est-à-dire que...
On les a inactivés.
Notre histoire donc, qui vient de la planète Tara, c'est une histoire qui appartient à une autre dimension qui se situe dans l'univers harmonique 2. Voilà. Et donc, quand il s'agit de refaire ce processus au niveau de la Terre, donc nos fondateurs, nos créateurs, enfin ceux qui en fait ont travaillé là-dessus, ils ont fait une recomposition de cette souche ADN, de ce réassemblage, quoi, je veux dire. Ça faisait partie d'une certaine logique, on veut dire.
On ne peut pas activer notre potentiel.
Eh bien, si, on peut l'activer. Bon, on en est à peu près à 6 brins. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui habitent sur cette planète-là, ils ont assemblé au maximum 6 brins. Quoi. Et c'est dans notre avenir que nous avons à assembler nos autres brins. Mais on arrive très rapidement au changement de dimension. C'est-à-dire que, je ne sais pas si... Tu as entendu parler de l'ascension planétaire dans la 5e dimension. Alors ça, c'est un grand mot, enfin, c'est un truc qu'on a du mal à s'imaginer. Eh bien, c'est quelque chose qui nous attend dans très peu de temps. Quoi, je veux dire.
C'est-à-dire, alors, pour nos auditeurs qui ne savent pas tout.
Ben, c'est un peu un scoop. Hein, ça. Bon, il y a pas mal d'auteurs à l'heure actuelle qui parlent d'ascension planétaire, de passer dans la 5e dimension, et qui expliquent comment ça se fait. Donc là, il faut expliquer un petit peu les cycles cosmiques, la grande année cosmique de 26 500 quelques années, la passation des équinoxes, eh bien, en fait, notre galaxie et notre planète Terre, il faut savoir donc déjà que nous tournons autour des Pléiades. Notre système tourne autour des Pléiades, et justement, il tourne autour des Pléiades dans ce laps de temps, c'est-à-dire de 26 000 ans. Et dans ce laps de temps, on passe dans ce qu'on appelle un champ stellaire qui contient des particules de photons beaucoup plus importantes. Eh bien, on va bientôt rentrer dans ce champ de photons, ce qu'on appelle la ceinture photonique, qui se trouve autour des Pléiades. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, il se produit au niveau vibratoire des possibilités pour ces planètes, ce système qui se trouve dans la 3e dimension, dans le premier univers harmonique, possibilité de s'accorder au niveau vibratoire, enfin avec les fréquences de l'univers harmonique supérieur. Parce que tout ça s'emboîte en fait. Je veux dire, l'univers harmonique 1, il n'est pas à l'extérieur de nous. Je veux dire, tout ça c'est mélangé. C'est ça qui est difficile à comprendre. Et que ce n'est qu'une histoire d'évolution de fréquence vibratoire pour passer d'une dimension à une autre. Voilà. Et donc, on approche de ça, et il parle de 2017, donc c'est quand même bientôt, pour arriver à ce processus. Quoi. Voilà.
Alors, on nous a déjà annoncé un certain nombre de faits qui ne se sont pas avérés exacts.
On puis a alors... parlé de 2012, voilà, 2012, bon, qu'est-ce qui s'est passé
2017,
en 2012
non, laissons tomber ceci, ces petits détails, quand est-ce que nous allons changer de taux vibratoire grâce à ce champ photonique. Mais en fait, je t'interromps au filéo parce qu'à moins qu'on se revoie, tu n'auras pas le temps de tout nous expliquer dans le laps de temps d'un interview, c'est-à-dire 50 minutes.
Ouais,
c'était déjà un challenge que de te proposer de faire une espèce de synthèse convaincante de tes assertions, de ta vision du monde. Néanmoins, peut-être que, puisqu'il ne sera pas possible de parler de tout, est-ce que tu pourrais nous parler de notre avenir ?
qu'est-ce qui nous attend bientôt? Parce qu'on parle de la fin du Kali Yuga, de l'âge de fer, donc on parle de l'âge du Verseau qui rejoint ce phénomène de précession des équinoxes. Mmh. Alors qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'une petite bombinette ou le taux de CO2 va faire en sorte qu'on va tous claquer? Ou est-ce qu'on va transmuter et élever notre taux vibratoire pour en rejoindre une dimension plus élevée?
Bah, c'est évidemment la grande question, savoir, on vient de parler de phénomène d'ascension, c'est-à-dire de changement de taux vibratoire, de changement de dimension, quoi, je veux dire. C'est ça qui est inscrit dans notre histoire. Alors, est-ce qu'on va y accéder ou pas? Et c'est aussi par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle sur notre planète, quoi, je veux dire. Quelles sont les forces en présence et quels sont les enjeux à l'heure actuelle? Bah, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont très très importants, mais qui concerne cette dimension-là. Alors, ça peut paraître un petit peu utopique de dire, la perspective de changer de dimension, ça paraît tellement complètement en dehors de ce que nous vivons, enfin, je veux dire. Moi, personnellement, ça ne me parle pas tant que ça, je veux dire. Pour moi, c'est presque une irréalité, ce changement de dimension. J'aspire à ce que nous, les êtres humains qui vivons sur cette planète au XXIe siècle, eh bien, on puisse arriver à trouver un niveau de réalisation qui est celui auquel on est censé parvenir, quoi, sur le plan de la civilisation. Bon, mais on va dire, mais notre civilisation, qu'est-ce qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle? Elle est en train de dégénérer très sérieusement. Enfin, ça pète de partout, voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est l'effet des conflits entre les acteurs en présence? Parce que tu nous as parlé de ces dieux sumériens, et tu nous as dit que ce qui nous différenciait d'eux, outre la génétique, c'était un taux de vibratoire, et qu'ils étaient, eux, capables d'errer entre différents plans multidimensionnels. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'astral ou je ne sais quoi, mais en tout cas, est-ce que cette dégénérescence de notre modèle de civilisation est le fruit de combats intergalactiques qui nous dépassent?
C'est exact. C'est une réalité. Voilà. C'est-à-dire que, on va dire qu'au-dessus de nous, il se passe des choses qui nous échappent totalement et qui sont de cet ordre-là. C'est-à-dire, il y a des forces en présence sur cette planète qui sont, il faut le dire, à un niveau spirituel, puisque ça appartient à d'autres dimensions, qui interagissent. Et il y a des conflits, enfin, il y a des guerres au-dessus de nos têtes, on va dire. Pourquoi? Parce que il y a en gros ceux qui habitent ces dimensions-là, qui sont là pour nous permettre de réaliser notre potentiel humain, et il y a ceux qui sont là pour, au contraire, nous empêcher de le réaliser, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont là pour contrôler notre planète. Et donc ça, c'est la réalité que moi, je vois depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, on peut reculer sur toi l'histoire de l'Atlantide, du continent Atlante, qui a sauté. Il a sauté, et ce n'est pas une météorite qui est passée dans le ciel. Et qui, non, ce n'est pas ça. Ce sont ces fameux anges déchus qui en sont la cause, quoi, je veux dire. Parce que depuis cette époque-là, il y a effectivement des guerres entre ces différentes extraterrestres. Et que... ils font partie de notre société humaine. Ils se sont infiltrés d'une manière subtile, je dirais, mais au niveau génétique aussi, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils font partie de notre humanité. C'est ça qui est difficile à comprendre, parce que ça, c'est les choses qu'on ne peut pas percevoir.
Donc, tu nous as dit qu'on avait nos ennemis, mais et qu'on a des alliés, alors.
Ah, évidemment qu'on a
des alliés. Et lesquels sont-ce? Comment s'appellent-ils?
En fait, ils sont décrits comme étant, de manière générale, on appelle ça l'Alliance gardienne. Donc c'est un certain nombre d'extraterrestres qui appartiennent, donc je le répète encore, à des dimensions différentes, où on retrouve par exemple les Syriens, notamment, qui ont un rôle important. Nous avons les Arcturiens, nous avons aussi les Pléiadiens. Les Pléiadiens sont beaucoup plus proches de nous, puisque ils sont sur le même plan que nous, je veux dire. Physiquement, ils sont exactement comme nous, les Pléiadiens, par exemple. Alors que les Syriens sont assez différents, même les Arcturiens. Voilà. Donc ce sont ces groupes extraterrestres, ces forces, je vais dire, ces intelligences extraterrestres, qui sont là, présents, pour nous aider à nous réaliser en tant qu'êtres humains. Voilà.
Eh ben écoute, tu sais quoi, Philéo, hein, c'est très frustrant de devoir t'interrompre dans ton élan, parce que moi qui espérais comprendre enfin la vraie histoire de nos origines et de notre avenir, on a à peine effleuré le sujet, il y a tellement de questions sans réponse. Je ne peux qu'encourager les gens qui veulent en savoir plus, parce que nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet, de rappeler que tu proposes justement un livre qui s'appelle « Terrestre, extraterrestre, notre histoire avec le ciel hein, ». C'est un livre que tu vas éditer avec une nouvelle maison d'édition que tu crées à Dimem.
Voilà.
Donc, si vous voulez, si ce genre de considération vous intéresse et que vous voulez savoir la fin, qui va gagner ce combat intergalactique entre les gentils extraterrestres et les méchants extraterrestres, eh bien, je vous propose de contacter Philéo Natis à l'adresse qu'il va vous donner maintenant.
Donc, mon mail, c'est philéo34. @yahoo.fr, donc ça c'est pour pouvoir me contacter.
Philéo, c'est P-H-I-L-L-O.
L-E-O, voilà.
Oui, sauf qu'il n'y a pas d'accent dans le.
Oui, dans le.
Donc philéo34
@yahoo.fr.
D'accord. Et là, on peut commander ton bouquin et qui sera à la modique somme de 23 € prix public à sa parution. Et si vous le voulez avant, hein, 412 pages, hein, c'est pas de la rigolade, hein, il a dû penser à son sujet. Et ben, si vous souscrivez jusqu'au 30 juin 2015, nous avons.
C'est bientôt.
C'est-à-dire bientôt, au prix de 18 €, vous pourrez l'avoir, vous pourrez économiser donc 5 €.
Ouais.
Philéo, excuse-moi de te couper, on aurait voulu tout savoir sur ce Far West des temps anciens, mais effectivement, et qui nous concerne apparemment, hein. Et puis il y a tellement de choses à dire, hein. Par exemple sur l'Astral, sur les bases souterraines, sur la Terre qui serait creuse, sur l'Admiral Byrd, les Pléiadiens, enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet.
Ouais.
Et je te souhaite une bonne continuation.
Eh bien, merci.
À bientôt.
Interview.